Vous écoutez RCJ. RCJ. 94-8. Un média du Fonds social juif unifié.
Bonjour à toutes et à tous, il est 8h, bienvenue sur l'antenne d'RCJ, nous sommes le vendredi 30 octobre et voici les titres de votre journal.
Le journal avec Best Fenêtre. Avant que le froid ne revienne, c'est le bon moment pour penser à votre isolation. Fenêtre, porte-fenêtre, de fabrication française au meilleur prix. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16.
RCJ.
Le journal. Rudy Saada.
Émotion et colère à Nice au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait 3 morts en la basilique Notre-Dame. L'auteur des faits a été identifié. Il s'agit d'un ressortissant tunisien âgé de 21 ans et entré en Europe via Lampedusa. Le niveau de vigilance attentat a été relevé à son maximum. 4000 militaires supplémentaires vont être mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ce matin, Emmanuel Macron préside un conseil de défense sur cette troisième attaque terroriste en un mois sur le sol français. Cette attaque a provoqué de nombreuses condamnations à travers le monde. On ira notamment en Israël, retrouver Gérard Benamou. Face à une vague épidémique qui ne faiblit pas, les Français vivent leur premier jour de confinement. 3 types d'attestations sont désormais nécessaires pour se déplacer. 200 000 commerces ont dû fermer leurs portes hier soir. Les restaurants et les coiffeurs ont notamment été pris d'assaut. Sur le plan de l'épidémie, 47 000 nouveaux cas et 235 décès ont été enregistrés ces 24 dernières heures. On évoquera les conséquences psychologiques de cette nouvelle période qui s'ouvre avec la psychothérapeute Sabine Mulco. Suite du procès des attentats de Charlie Hebdo et d'Hypercacher au palais de justice de Paris, après 2 mois de témoignages, d'enquêtes et d'interrogatoires des accusés, c'est la dernière ligne droite du procès avec le début des plaidoiries. Hier, les avocats des parties civiles ont commencé à plaider. Vous écouterez le compte-rendu d'audience d'Églantine Delalleux. Et puis, le coup prétend pour Jeremy Corbyn, l'ancien patron du Labour britannique. Le parti travailliste britannique donc a suspendu son ancien chef pour les réserves qu'il a émises au sujet d'un rapport accablant qui pointait la responsabilité du parti face à l'antisémitisme alors qu'il le dirigeait. Dans son rapport de 130 pages, le comité pour l'égalité des droits humains avait mis en évidence les faits illicites de harcèlement, de discrimination et d'interférence politique.
L'info en France.
Nice se réveille sous le choc ce matin au lendemain du terrible attentat islamiste qui a coûté la vie à 3 personnes. Une femme de 60 ans égorgée à l'intérieur du bâtiment. La deuxième victime est un homme de 55 ans. Il a été blessé mortellement à coups de couteau. C'était le sacristain de la basilique. La troisième victime, âgée de 44 ans, quant à elle, a été grièvement blessée. Elle s'était réfugiée dans un café en face de l'édifice et elle est morte quelques minutes plus tard. Hier, Jean-François Ricard, le procureur de la République, a donné lors d'une conférence de presse plus de précisions sur l'identité du terroriste.
Il était porteur, au moment de son interpellation, d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Par ailleurs, l'intéressé est inconnu au fichier national des empreintes digitales. Il est également inconnu des services de renseignement.
Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense au lendemain de l'attentat djihadiste qui donc a fait 3 morts et qui a suscité une énorme vague d'émotions dans le pays et à l'étranger. Le niveau d'alerte attentat a été relevé à son maximum. 4000 militaires supplémentaires vont être déployés en renfort donc du plan Sentinelle. Après de l'auteur présumé, les enquêteurs ont trouvé donc un Coran, 2 téléphones et l'arme du crime, un couteau de 30 cm avec une lame de 17 cm selon le procureur. Hier soir, de nombreux Niçois sont venus près de la basilique Notre-Dame pour rendre hommage aux victimes. Dans la journée à 15h, toutes les églises de France avaient sonné le glas. Cet attentat a suscité de très nombreuses réactions dans le monde, celle du pape François évidemment et celle de Donald Trump qui a adressé son soutien à la France hier sur Twitter et puis lors d'un meeting. Et on va prendre la direction d'Israël pour retrouver notre correspondant Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
Israël où là aussi les réactions sont nombreuses.
Oui, la violence des attaques islamistes répétées en France, la méthode horrifiante apparentée à celle des fanatiques qui se réclamaient de l'État islamique et qui décapitaient avec une certaine jouissance leurs otages il y a quelques années, ces événements d'une rare brutalité qu'on retrouvait à plusieurs reprises sur le sol français dernièrement et qui se sont répétés hier ont profondément choqué les Israéliens et fortement inquiété la communauté française d'Israël. Un sentiment de solidarité avec la France et le président Macron, déterminé à lutter contre ces agressions à travers la société israélienne. Cette outrance dans la violence des tueurs en France, frappant jusque dans une église à Nice des gens en prière, a reconnecté les Israéliens avec les périodes terribles des frappes terroristes palestiniennes en Israël. Oui ? Vous m'entendez ?
Oui, oui, je vous entends, je vous entends.
Pardon. Notamment durant la seconde intifada. Le terrorisme est partout et le terrorisme n'est rien d'autre que du terrorisme chaque fois qu'il se manifeste, affirment les Israéliens ce que le Premier ministre Netanyahou a traduit dans les termes officiels de sa réaction par « Israël condamne avec fermeté le terrible attentat terroriste qui a frappé Nice hier. Cette attaque nous rappelle encore une fois que la terreur peut frapper en tout lieu et doit être combattue partout. Le peuple israélien se tient aux côtés du peuple français aujourd'hui. Nous partageons le deuil pour les victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Israël est prêt à aider le gouvernement français à lutter contre ce fléau jusqu'à ce qu'il soit vaincu. » Cependant, du côté des Arabes israéliens, les réactions étaient très différentes, même parmi ceux qui, bien que musulmans, n'étaient pas religieux. Les Arabes, de façon générale, ont très mal perçu les propos tenus en France autour du droit de blasphémer leur prophète Mahomet, ne percevant d'aucune façon la dimension de distanciation qui en faisait une attitude simplement humoristique, et ils ont dénoncé cette liberté d'expression française qu'ils jugent pour eux intolérable. Un fossé culturel autour de la force de la tradition musulmane qui fait loi pour les musulmans, les sépare grandement de la culture du tout est moquable français. Par ailleurs, le chef du Conseil suprême islamique palestinien a vu dans ces événements un tremplin pour enflammer ses supporters et les musulmans d'Israël. Le cher Ikrima Sabri, en effet, a appelé hier à une journée de rage pour les Palestiniens aujourd'hui. Ce vendredi, motif protester contre les tentatives de nuire au prophète Mahomet. Enfin hier, et pour la deuxième fois devant l'ambassade de France à Tel Aviv, une foule d'Arabes israéliens s'est rassemblée sous les appels du leader islamiste pour manifester sa colère et dénoncer les propos d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression et le droit aux caricatures, accusant la France d'être partie en campagne d'incitation à la haine contre l'islam et le prophète Mahomet. Les meneurs de cette manifestation ont affirmé attendre que le président français présente des excuses. Et puis mardi déjà, le grand moufti s'était déplacé pour remettre une lettre de protestation en main propre à l'ambassadeur de France Éric Danon, exigeant là encore des excuses du président français. Enfin, des commerçants palestiniens ont annoncé qu'ils allaient boycotter les produits français, certains ayant déjà retiré de leur commerce les articles qu'ils jugent fabriqués en France. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
Merci Gérard. Et donc cet attentat a bouleversé la France et marque une étape de plus dans l'horreur islamiste en France. C'est le thème également du billet d'humeur de Gilles Taillet. Bonjour Gilles.
Bonjour Rudy. Qui aurait imaginé qu'à peine 15 jours après l'assassinat du jeune professeur Samuel Paty, nous soyons confrontés à une nouvelle scène d'horreur ? Le massacre perpétré hier dans la cathédrale Notre-Dame de Nice nous montre encore une fois que l'idéologie islamiste, que certains ont jusque-là refusé de nommer, est bien présente partout et active quand elle le désire, ses soldats djihadistes. Hier, non seulement elle a causé la mort de 3 personnes qui priaient paisiblement dans la cathédrale, mais elle est aussi frappée à Avignon, à Lyon et à Sartrouville. Ces fous d'Allah ont agi poussés par la haine de tous ceux que nous sommes. Le choc est immense. Les condamnations sont nombreuses, mais certaines laissent un goût amer. Aujourd'hui, frappés comme nous l'avons été depuis de nombreuses années par les terroristes islamistes, nous ne pouvons accepter les condoléances de ceux qui pactisent avec le diable et par leurs paroles et différents appels à la haine arment le bras des assassins. Nous ne devons plus accepter les messages de tous les incendiaires qui viennent verser leurs larmes de crocodile après chaque attaque terroriste islamique. Comment accepter le communiqué du CCIF ou celui du tyran d'Ankara, alors que ce dernier appelle à la guerre sainte contre nous? Comment fermer les yeux sur toutes les manifestations dans nombre de pays au cours desquelles des foules entières hurlent leur détestation de tout ce qui n'est pas eux? Comment qualifier ceux qui nous font la guerre, si ce n'est par le terme d'ennemis? J'entends ceux qui refusent d'utiliser le mot « guerre », Combien de morts encore faudra-t-il pour qu'ils ouvrent les yeux ? Nous sommes en guerre, car on nous fait la guerre, et nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre et de vaincre. Nous battre afin de pouvoir continuer à vivre librement. Depuis des années, après chaque attentat, nous déclarons et manifestons ensemble. Être Charlie, être Bataclan, être hyper-cachère, être juif, être policier, être Samuel Paty, hier être Nice. Soyons la France et défendons tous ensemble nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, qui sont les valeurs qui font de chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa couleur ou ses croyances, un être libre. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.
Voilà donc pour le billet d'humeur de Gilles Taïeb. Vous écoutez RCJ, il est 8h. Dans un instant, on évoquera évidemment le nouveau confinement entré en vigueur la nuit dernière en France.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer ? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bain et déco. Faire.
Quand son père, célèbre chef étoilé, est incarcéré, Eva ne sait pas encore que sa vie va être bouleversée. L'épreuve de la prison va-t-elle libérer les secrets de famille ? Eva découvrira-t-elle le passé de son père ? Avec l'aide d'un séduisant avocat, Eva trouvera les réponses. La saveur de nos vies est le premier roman de Déborah El-Malek, aux éditions Écriture.
C'est donc 67 millions de Français qui vivent depuis cette nuit sous confinement, alors que les derniers chiffres traduisent une situation inquiétante sur le plan sanitaire. La France devient donc le troisième pays d'Europe après le pays de Galles et l'Irlande à prendre de telles mesures. Ce confinement ne sera pas tout à fait identique à celui qu'on a connu au printemps dernier. Hier soir, entouré des ministres concernés, Jean Castex a détaillé les modalités de ce plan. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution.
L'accélération de la circulation du virus, vous la voyez sur l'écran, frappe avec la même brutalité toute l'Europe. Tout le monde avait intégré le risque d'une deuxième vague, mais personne n'avait prévu une flambée si violente et si rapide. Et d'ailleurs, la plupart des pays européens sont aussi conduits à prendre, comme nous, des mesures de restriction. En France, contrairement à la première vague, toutes nos régions et toutes les catégories d'âge sont touchées. Puisque le virus accélère, alors nous devons accélérer également. L'objectif est simple, protéger la santé de nos concitoyens en cassant par tout moyen la spirale épidémique.
Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées doivent donc rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé, notamment le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. L'idée est donc de permettre à de nombreux parents de poursuivre le travail, mais les commerces non essentiels donc seront de nouveau fermés. Ils sont 200 000 en France à fermer leurs portes ce matin, tout comme les salles de cinéma, les salles de spectacle, aussi les librairies. Pour se déplacer, il faudra donc se munir d'une attestation dérogatoire. Elles sont désormais disponibles sur le site du gouvernement au nombre de 3 au format PDF. À remplir selon la situation. Alors vous avez une attestation de déplacement dérogatoire à remplir pour les déplacements entre le domicile et le travail, faire ses courses, se rendre à une consultation médicale ou prendre l'air dans un rayon de 1 km autour de son domicile. Elle peut être générée en ligne, notamment sur votre smartphone. Autre document, ce justificatif de déplacement scolaire entre le domicile et le lieu d'accueil de l'enfant qui sera signé par votre établissement. Et enfin, un justificatif de déplacement professionnel qui, lui, est à remplir par l'employeur. Hier, les Français se sont préparés à ce reconfinement. Les salons de coiffure ont par exemple été pris d'assaut. De nombreux Parisiens ont quitté la capitale. On a dénombré 700 km de bouchons en région parisienne. Sur le plan de l'épidémie, 47 636 cas supplémentaires positifs au Covid-19 ont été recensés en France et 235 personnes supplémentaires sont décédées en 24 heures. 976 nouvelles hospitalisations. 76 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 110 donc supplémentaires en réanimation en 24 heures. C'est une situation critique pour les hôpitaux qui pourraient atteindre mi-novembre si la courbe n'était pas cassée, donc un niveau critique. Un confinement qui a donc démarré la nuit dernière et qui pourrait donc durer bien plus de 4 semaines des 4 semaines annoncées. Le conseil scientifique, lui, table sur un confinement de 8 semaines qui parviendrait efficacement à casser la courbe de l'épidémie. Comment appréhender cette période qui s'ouvre ? Nous en parlons ce matin avec Sabine Mulco, psychothérapeute et hypnothérapeute. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous ce matin. Le contexte est différent du premier confinement. Ce confinement l'est aussi avec des enfants qui, cette fois, seront scolarisés, des anciens qui pourront être visités. En quoi, psychologiquement, il y aura des différences avec ce qu'on a vécu au mois de mars ?
Alors, ça va être à la fois identique tout en étant différent, puisqu'on voit les enfants vont aller en classe. Donc c'était un gros problème. Beaucoup de personnes se sont plaintes d'avoir à faire l'école à domicile et en même temps être en télétravail. C'était trop compliqué. Donc là, pour le moment, les enfants vont à l'école. Ça va permettre à tout le monde d'avoir de l'oxygène. Et ça permet aussi de réguler les journées, puisqu'il faut être à l'heure pour l'école, il faut retourner chercher les enfants. Donc là, on a comme un semblant de vie antérieure. Pourquoi vie antérieure ? Dans le sens où on est en pays de connaissance. C'est comme ce qui se passe d'habitude. C'est pour ça ce que j'ai dit, c'est ça va être identique tout en étant différent. Donc, on a en notre mémoire tout ce qui a bien fonctionné la dernière fois. Donc ça, on va le remettre en place très très rapidement.
Alors, le président a laissé entendre que l'objectif, c'était de fêter Noël en famille. Est-ce que c'est un bon calcul ? Parce que si par malheur, cet espoir était déçu, quel serait l'impact sur le moral et la psychologie des Français ?
Rudy, ne voyez pas tout en noir. Non. Alors, on va me dire, c'est trop facile, vous avez envie d'être positive, Nanine. Non, c'est pas du tout mon discours. Mon discours, il est simplement réaliste. On sait que quand on a des objectifs, ça permet d'avancer, ça permet de se repérer dans le temps, ça permet de visualiser quelque chose. On sait maintenant que, par exemple, programmer ses vacances à l'avance augmente le niveau de joie plutôt que de les programmer à la dernière minute. Parce qu'on peut se projeter, on peut en parler avec son conjoint, on peut en parler en famille. Donc, ça permet de mettre déjà un peu de soleil, de joie dans un moment qui, certes, est très difficile.
Et surtout incertain. C'est ça aussi, dans la difficulté de projection, c'est qu'il y a aussi une incertitude sur le bout du tunnel.
Alors, justement, bien, oui, mais il y a un bout du tunnel. Et comme on l'a beaucoup entendu sur votre antenne, nous sommes un peuple. C'est-à-dire que nous sommes chacun un petit maillon. On a l'impression que rien ne sert à rien, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si chacun fait des efforts, on va faire baisser l'épidémie. C'est-à-dire que oui, on a le droit d'aller voir nos anciens. Et heureusement, ça c'est une mesure d'humanité qui était très 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 importante. Okay. Mais on va faire très 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 attention, c'est-à-dire qu'on ne va pas partager un thé avec sa grand-mère. On va garder son masque, on va se laver les mains 40 fois, on va rester à distance. Mais on va avoir le droit de les visiter. Donc on a chacun à faire des petits efforts.
Alors Sabine Mulco, vous allez encore dire que je vois tout en noir, mais l'attentat de Nice intervient après celui de Samuel Paty, qui a bouleversé les Français dans un contexte aussi où les jours raccourcissent, où la lumière se fait rare aussi. Est-ce que ce contexte différent de celui du printemps peut avoir aussi un impact sur chacun d'entre nous ?
Oui, bien sûr. Je ne pourrais pas nier les dépressions saisonnières avec le raccourcissement des journées, la baisse de l'intensité de la luminosité. Oui, effectivement. Donc là, ceux qui habituellement sont touchés par la dépression saisonnière, traitez-vous comme d'habitude. Certains ont des lampes, certains vont commencer un traitement. Allez chez vos médecins, consultez vos thérapeutes. Surtout, n'annulez pas vos rendez-vous médicaux. On l'a vu déjà hier, une quantité de rendez-vous ont été annulés chez les médecins. Continuez à suivre vos traitements et dès que ça ne va pas, dès que vous sentez un signal d'alerte, consultez. Les médecins sont ouverts, ils reçoivent en visio ou ils reçoivent. Et maintenant, il y a des mesures barrières, donc on n'a plus peur d'aller chez un médecin. Surtout, parlez autour de vous. Je veux dire, ne vous enfermez pas. Ce qu'on a vu surtout, c'était sur les célibataires, il y a eu un impact vraiment très très fort la dernière fois. Donc, peut-être partez en coloc. s'il est encore temps, ou allez chez vos parents, enfin, reliez-vous au monde, surtout, ne restez pas isolés sur vous-même, parlez avec les autres. C'est ça l'essentiel, la relation humaine.
Oui, l'importance donc du lien social. Merci Sabine Mulco. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et hypnothérapeute et puis qu'on vous retrouve chaque semaine sur RCJ. RCJ 8h19, dans un instant, nous prendrons la direction du Palais de Justice de Paris pour le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Dans ce contexte assez particulier, les plaidoiries des avocats ont débuté.
Le hasard n'existe pas, de Joseph Auchert. Une rencontre à Paris entre un jeune juif et un agent de renseignement égyptien déclenche une alerte à la DGSE. Les services secrets français souhaitent coopérer avec le Mossad et lui confier l'investigation de cette affaire. Le Mossad missionne l'un de ses agents en poste à Paris. Des manipulations en France et en Israël, une histoire d'amour inattendue amène un suspense haletant et saisissant. Le hasard n'existe pas, le nouveau thriller d'espionnage de Joseph Auchert, disponible dès maintenant sur Amazon.
Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances-vie, vous permettez au FSJU d'agir.
Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
Pour toute information, contactez Elena Attias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
Vous écoutez RCJ.
Après 2 mois de témoignages, d'enquête et d'interrogatoires des accusés, dernière ligne droite pour le procès des attentats de janvier 2015 avec le début des plaidoiries. Hier, les avocats des parties civiles ont commencé à plaider. Le compte-rendu d'audience signé Églantine Delalleux.
Le temps est venu pour les victimes de prendre la parole pour la dernière fois. 2 mois après l'ouverture de ce procès historique, Maître Claire Josserand-Schmitt, représentante de l'Association française des victimes du terrorisme, a été la première à ouvrir le début des plaidoiries des parties civiles. L'avocate explique que le terrorisme islamiste qui a tué 17 personnes ces 7, 8 et 9 janvier 2015 est celui, je la cite, qui tue des enfants dans une école juive, qui tue un couple de policiers dans son salon devant son enfant, qui tue des jeunes dans un concert, ou encore qui écrase des individus qui viennent voir un feu d'artifice. Un parallèle que l'avocate a fait aussi avec l'attentat de la basilique de Nice qui a fait 3 morts hier. Ce procès est un procès pour l'histoire, pour une histoire qui n'en finit jamais de se répéter, a-t-elle déclaré. Maître Galina Elbaz et Maître Yael Semama, avocate de la LICRA, ont à leur tour plaidé. Elles déclarent souhaiter faire reconnaître le caractère antisémite de l'attentat de l'hypercacher et requalifier la séquestration en tentative d'assassinat à caractère antisémite. Elle cite alors Simon Wiesenthal « Pour moi, je peux pardonner, mais pour les autres, je demande justice. » Citant du Albert Camus, maître Yvan Terrel, représentant de SOS Racisme, le CRIF et l'UEJF, clame que le peuple français se tient non pas victime, mais vivante et son souffle vibre dans cette salle d'audience. Lui aussi souhaite que l'attentat de l'épicerie juive soit reconnu comme antisémite. Il déclare en citant Robert Badinter « Tuer un être humain à cause de sa religion ou son origine est le crime le plus atroce. On ne peut pas aller plus loin dans la dégradation humaine. » Maître Muriel Waknin pour l'association France-Israël a quant à elle dénoncé les mensonges durant ce procès et en regardant le président de la cour acclamé « J'espère que vous ferez le choix de protéger la société. J'espère que vous vous direz « J'ai condamné lourdement car c'était la seule arme que j'avais contre eux. » Durant 5 jours, 74 avocats de la partie civile viendront plaider.
Vous écoutez RCJ, il est 8h, dans un instant on fera le tour du reste de l'actualité. On retournera en Israël où on célébrait hier les 25 ans dans le calendrier hébraïque de la mort de Yitzhak Rabin. On évoquera également la suspension de l'ancien leader des travaillistes anglais, Jeremy Corbyn.
La suite du journal, Rudy Saada.
Hier marqué l'anniversaire sur le calendrier hébraïque des 25 ans de l'assassinat de l'ancien premier ministre israélien Yitzhak Rabin sur la place qui porte son nom à Tel Aviv, la même où l'ancien premier ministre a été tué par un extrémiste juif. 25 000 bougies ont été allumées pour saluer sa mémoire. Yitzhak Rabin a été assassiné, je vous le rappelle, le 4 novembre 1995 à l'issue d'un discours lors d'une manifestation pour la paix qui avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans le centre de Tel Aviv. Son meurtrier Yigal Amir est un militant d'extrême droite opposé aux accords d'Oslo. Dans la journée, le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, a rendu hommage à Yitzhak Rabin lors d'une cérémonie à la Knesset. Il a promis de continuer à faire progresser l'État d'Israël en signant d'autres accords de paix. Fervent opposant à l'époque aux accords d'Oslo, Benjamin Netanyahou a reconnu toutefois avoir eu des désaccords avec le gouvernement de l'ancien Premier ministre de l'époque, mais a assuré l'avoir toujours respecté. Nous reviendrons d'ailleurs en détail sur ces commémorations dans le 12-13 avec Gérard Benamou. Les accusations de laxisme face à l'antisémitisme planaient depuis longtemps sur lui. Jeremy Corbyn a été suspendu par le Parti travailliste britannique. On lui reproche les réserves qu'il a émises au sujet d'un rapport qui accablait sa responsabilité et qui pointait la réponse du parti face à l'antisémitisme. Dans un rapport de 130 pages, le Comité pour l'égalité et les droits humains, un comité indépendant, rapporte des faits illicites de harcèlement, de discrimination et d'interférence politique. La présidence par intérim a étrayé de ce comité a étrayé dans ce rapport les défaillances inexcusables au sein du Labour qui résultent d'un manque de volonté de s'attaquer à l'antisémitisme plutôt qu'une inaptitude à le faire. Fin de citation. L'enquête a mis en évidence donc un nombre significatif de plaintes relatives à l'antisémitisme qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête, particulièrement des plaintes sur les réseaux sociaux. Jérémy Corbyn a réagi via Facebook. Il indique qu'il n'acceptait pas toutes les conclusions du rapport qui met donc en évidence ces discriminations au sein même de son parti. À la lumière de ces commentaires, le parti a donc décidé de suspendre Jeremy Corbyn et a ouvert une enquête, a annoncé le porte-parole donc du Labour. RCJ, il est 8h26.
Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Michel Bougenin. Je vous donne rendez-vous au Théâtre des Variétés pour La Vare de Molière.
La Vare au Théâtre des Variétés avec Michel Bougenin le vendredi à 18h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Location 01 42 33 09 92, théâtredesvariétés.fr. Un spectacle avec le soutien de RCJ.
Ils m'ont dit, c'est un spot de 30 secondes.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
Le hasard n'existe pas, de Joseph Auchert. Une rencontre à Paris entre un jeune juif et un agent de renseignement égyptien déclenche une alerte à la DGSE. Les services secrets français souhaitent coopérer avec le Mossad et lui confier l'investigation de cette affaire. Le Mossad missionne l'un de ses agents en poste à Paris. Des manipulations en France et en Israël, une histoire d'amour inattendue amène un suspense haletant et saisissant. Le hasard n'existe pas. Le nouveau thriller d'espionnage de Joseph Auchert, disponible dès maintenant sur Amazon.
Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances vie, vous permettez au FSJU d'agir.
Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
Pour toute information, contactez Elena Attias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
Bonjour à tous. À Paris, le ciel restera bien chargé. Un ciel très nuageux à couvert avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Température comprise entre 13 et 15 degrés. À Bordeaux, ce sera du beau temps après dissipation des brouillards matinaux. 9 degrés ce matin, 20 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, du beau temps avec quelques nuages élevés et 27 degrés. Bon Shabbat à tous.
Merci Sylvie, voilà c'est la fin de cette édition. On se retrouve pour le 12-13, hein, 12-13 XXL avec Amine El Khatami du Printemps Républicain, Guillaume Samar qui nous parlera des victimes et le professeur Alphon pour parler évidemment de ce confinement et de ses effets. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.
RCJ 94.8, un média du Fonds social juif unifié.
C'était votre journal avec Best Fenêtre. Pensez à votre isolation, le froid est bientôt de retour. Bruno et son équipe vous attendent pour vos projets de changement de fenêtre, porte-fenêtre, volet roulant, portail, motorisation. Ne perdez pas de temps à comparer. Appelez-nous Best Fenêtre, certifié RGE au 01 43 61 31 16. Les meilleurs prix garantis, 01 43 61 31 16.